Et puis, j'ai le désespoir quand je vois ce qui se fait au niveau politique, notamment politique suisse. Donc, je vais résister. Et je résiste. Et ça me fait du bien de résister. Et ça me met même en colère, j'entends. Et c'est parce que j'ai de la colère, que j'ai de la rage, que je me mets en action. Donc, voilà, je me crée mon espoir, en fait, je dirais.
Cela fait maintenant quelques années qu'un mot fait son apparition progressive dans le langage commun, l'éco-anxiété. Et quand on parle d'anxiété due au dérèglement climatique, il y a cette idée d'angoisse, de paralysie face à un avenir entravé. Et pourtant, dans cette série podcast sur l'éco-anxiété, nous voulons plutôt vous partager des récits porteurs d'espoir. Car les émotions provoquées par des nouvelles peu réjouissantes sur le climat peuvent aussi être un levier pour passer à l'action et ainsi envisager le futur un peu plus sereinement. Pour l'épisode pilote de cette série, nous avons reçu Irène Wettstein, avocate et médiatrice exerçant à Vevey. Nous avons évoqué avec elle la question de l'impuissance face au dérèglement climatique. Quand Irène Wettstein a réalisé que son action individuelle n'avait que très peu de poids face à celle des institutions politiques et économiques, elle s'est sentie démunie et désespérée, impuissante même. Son passage à l'action, c'est ce qui lui a permis de faire face à ce sentiment d'impuissance et de retrouver l'espoir. Dans cet épisode, elle rappelle qu'il est possible de choisir une voie ou un métier qui correspond à nos valeurs et avec lequel il est possible d'agir pour la collectivité. Dans son quotidien d'avocate, elle défend des activistes du climat et veut alerter l'opinion publique sur l'inaction des institutions face au dérèglement climatique. Et parce que ce podcast parle d'écologie, mais aussi de santé mentale, des ressources d'aide se trouvent à la fin de cet épisode. Bonne écoute.
J'ai fait des études de droit à Lausanne, et puis après j'ai travaillé au département des affaires étrangères comme juriste, et très rapidement j'ai fait un brevet d'avocat sur Genève. Bon, alors je dirais d'abord, je suis une femme, donc il y a en tout cas ce que je ressens, un certain type d'action qu'on va pas nous confier à des femmes. Pourtant, j'ai un MBA, je pense que j'ai une bonne expérience professionnelle et voilà. Donc il y a certains cas qu'on ne m'a jamais confié, donc je ne défends pas des entreprises dans les cadres de fusion-acquisition. Par exemple, mais de manière assez large, je pratique dans tous les domaines du droit. Alors j'ai été quand même très inspirée par ma mère, qui sa vie durant a fait face à des difficultés et qui nous a montré le chemin à ma sœur et à moi de résister et d'être indépendante. Ça, c'est pour moi le premier modèle. Après, j'ai aussi le modèle de mes deux parents qui ont notamment créé un groupe pour accueillir des boat people. Je trouvais ça extrêmement utile. Enfin, je les voyais faire ces réunions, prendre beaucoup de temps pour ça. Et des boat people, c'était quand il y a eu le Vietnam, enfin les problématiques du Vietnam, il y a beaucoup de Vietnamiens qui sont venus se réfugier en Suisse. Voilà, donc pour moi c'est des modèles. Ma mère est aussi membre du conseil de Caritas. Bon, j'ai repris le flambeau après elle. Voilà, j'arrive pas à me dire que je suis dans mon coin, que je gère ma vie de famille, ma vie professionnelle, et puis voilà, j'arrive pas à me limiter à ça. Je trouve que pour moi, avoir du sens, c'est donner à autrui, se préoccuper d'autrui, et puis essayer de partager et d'améliorer les choses dans le monde. Moi, je vis ce sentiment de colère, mais qui m'enrage, parce que, comme plein de personnes, j'ai été désinformée. C'est-à-dire que pendant des années, je me suis aussi impliquée en politique, j'ai lu les journaux, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, et je pense que les médias portent une forte responsabilité là-dedans, je n'ai pas compris qu'il y avait un problème climatique. Typiquement, il y avait des éditos dans le journal, il y avait d'un côté un climatologue qui disait « on a un problème », c'est rapide, l'autre qui avait aussi un autre scientifique, etc., qui disait « non, c'est pas si grave que ça », voilà. Et en fait, j'ai appris par la suite que, par exemple, aux États-Unis, Depuis les années 80, les milieux pétroliers ont investi 800 millions de dollars par année pour désinformer. Pour dire tout d'abord, il n'y a pas de problème climatique. Puis après, l'évidence étant là, pour dire ben c'est pas une cause liée à l'homme. Et ensuite, maintenant, ils sont encore à l'action, puisqu'évidemment, les enjeux économiques sont monstrueux. Ils sont à l'action pour nous dire ben, l'hydrogène va nous sauver, la technologie nous sauvera, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'enrage, en fait, que ça fonctionne encore aujourd'hui et que ça pollue le débat et que ça conduit à ce que des... On puisse encore voir des publicités, prenez l'avion à tout prix, agrandissez l'autoroute parce qu'il faut agrandir des autoroutes et autres. Et ça m'enrage et je me sens, alors là, je me sens démunie. En me disant, mais qu'est-ce que je peux rien y faire. Là, j'ai pas moyen d'empêcher ça. Alors, le sujet du climat, ce n'était pas vraiment quelque chose qui me préoccupait. Avant 2018, c'est-à-dire que je triais mes déchets, je faisais attention, mais enfin j'entends, j'ai eu plusieurs fois mon sac à dos, et puis je suis partie partout dans le monde, j'ai voyagé, j'adorais ça, et puis c'est vraiment, et puis je lisais dans les journaux des choses, en me disant tiens, est-ce qu'il y a vraiment un problème, il n'y a pas un problème, est-ce qu'on va pouvoir le régler, enfin j'avoue ne pas comprendre, et c'est en 2018, mon compagnon a lu le livre de Pablo Servigne au sujet de l'effondrement, c'est-à-dire qu'on allait droit dans le mur et qu'il fallait réagir maintenant. Il y a eu aussi le député grève du climat, il y a eu le rapport du GIEC, un des rapports du GIEC d'ailleurs, parce que ce n'était pas le premier. Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et puis là, ça m'a profondément déprimée. Donc j'étais extrêmement triste, j'ai été plombée, pendant plusieurs mois j'étais désemparée, je me disais qu'est-ce que ça n'a pas du sens, enfin je fais quoi, je continue comment, à quoi bon, enfin j'ai des enfants aussi qui ont 25 et 26 ans, quel avenir il y a pour eux, je me suis vraiment sentie très démunie. Et alors j'ai participé à des grèves, enfin des marches de la grève du climat. Une, deux, trois, puis même là, enfin, finalement, à quoi bon ? C'est là où je me disais, mais à quoi bon ? On marche et puis il y a quoi qui change ? En fait, les changements, ils doivent venir au niveau politique et économique surtout. Et donc, je ne savais pas quel moyen d'action pour que les choses changent. Donc, j'étais assez démunie à cette époque. Ouais. Alors, je fonctionnais, hein, je fonctionnais très bien, mais un espèce de vide, de non-sens. C'est le contraire de ce que je suis. Moi, je suis quelqu'un de dynamique. Allez, je vais y aller. On y va, on y croit, on fonce. Et bien alors là, du tout, pas du tout pendant cette période-là. En fait, ce qui me vient, moi, c'est que j'ai envie de faire bouger des choses. J'arrive pas à me dire, OK, c'est comme ça. Je me laisse pas abattre. Je me dis chaque fois qu'il faut faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'à l'occasion d'une des marches pour le climat à Lausanne, j'ai vu des jeunes qui se faisaient sortir des locaux des retraites populaires. Ils se faisaient sortir par la police totalement pacifiquement. Et puis je leur ai tendu la carte de visite. Moi, je me suis dit, mais ça je sais faire. Enfin, j'entends, ils vont être confrontés à des auditions de la police, à des auditions du ministère public. Ils vont être arrêtés et puis ils vont être jugés. Et ça, c'est mon métier. Ça, je sais le faire. Et ça, je peux donner. Donc j'aurais confié ma carte de visite et puis j'ai eu vraiment la grande chance que quelques mois plus tard, ils me contactent. Ceux en l'occurrence qui avaient participé à la partie de tennis dans les locaux du Crédit Suisse à Lausanne. Pour moi, c'est vraiment une grande chance parce que ça m'a permis de me mettre en action avec ce que je sais faire. Alors d'abord, quand je les ai rencontrés, je me souviens exactement de l'endroit. C'était à la place du tunnel, dans un bar. Puis j'ai appris par la suite qu'il y avait des policiers en civil qui étaient là, à la table d'à côté. Et puis je leur ai dit, mais vous êtes vraiment courageux. Je vous admire de ce que vous avez fait. Puis ils ont dit, oh, on n'a pas fait grand-chose. Puis j'ai dit, mais si, parce que c'est courageux ce que vous faites, de désobéir, de dire que vous n'êtes pas d'accord, et puis d'affronter ce que vous affronterez d'ailleurs encore. Et puis après, puis je leur ai dit, écoutez, vous êtes 12, on sera 12 avocats. Et lors de la première conférence de presse qui avait lieu dans un petit lieu perdu à Lausanne, il y avait quelques journalistes, il y avait 3 activistes du climat qui étaient là. J'étais la seule avocate et je leur ai dit, on est déjà un collectif d'avocats. Donc j'ai complètement bluffé à ce moment-là. Mais j'étais déterminée à ce qu'on le fasse. Parce que pour moi, c'était clair. Il ne s'agissait pas d'une petite action. Il s'agissait vraiment de dire, écoutez, là, il y a des jeunes qui se mettent en danger parce qu'ils sont en danger et que tout le public, toute la population est en danger et ils sont en train de nous alerter. Et on veut les punir pour ça ? C'est juste pas OK. En général, en procédure, quand on prend une action, on va défendre une personne en particulier contre quelque chose. Là, on défend une cause. Défendre une cause, c'est vraiment concevoir une défense totalement différemment. Je ne l'avais jamais fait jusqu'à présent. Mais voilà, je me suis inspirée de ce qu'a fait Gisèle Halimi, avocate française, qui, au sujet des causes qu'elle défendait, où elle défendait des femmes qui avaient été violées, avait mis en avant, par la voie publique, en faisant appel à des témoins et des experts, la problématique de l'avortement en France. Et donc, c'était vraiment le but de, pour mettre sur la place publique cette question du climat, eh bien, on a utilisé cette partie de tennis du Crédit Suisse avec des jeunes qui s'inquiètent et pour dire, ben voilà, maintenant, ils nous alertent et puis c'est eux qu'on va condamner. Et la question qui se pose, c'est en fait, est-ce que c'est juste que ce soit eux qui soient condamnés et pas l'inaction de nos politiques et pas les actions écocides des entreprises. Donc en fait, on a créé tout un procès de principe où ils étaient 12, on était 12 avocats, il y a eu 12 témoins et experts. Alors tous n'ont pas été acceptés par la justice, mais voilà. Et puis on a mis ça dans les médias et on a monté tout un procès avec un acquittement qui était absolument extraordinaire, avec un président qui a compris. Lui, il a compris le danger pour l'humanité auquel nous sommes confrontés. Ce qui était beau, c'était qu'on était effectivement 12 avocats, de tous bords politiques, de tous âges, puis c'était vraiment magnifique, alors qu'on se bat, en général, en justice, on est les uns contre les autres. Alors on se respecte et autres, moi ça peut être plus ou moins rude, on mord dans notre os et puis on le tient, quoi. Mais non, là on était vraiment tous attirés à la même corde. Et ça, c'était juste une belle découverte, j'ai adoré ça. Je l'ai revécu après dans d'autres procès aussi de défense d'activistes du climat, donc ça c'était très très beau. Là j'étais née dans le guidon, ça m'a donné une énergie énorme. Donc oui, vraiment l'impression d'avoir du sens dans ce que je fais, et puis l'impression de faire quelque chose de nécessaire, d'utile, qui fait bouger les choses. Et je suis persuadée qu'on a fait bouger les choses. On a participé à la prise de conscience de la problématique climatique, du fait qu'il faut faire quelque chose. Voilà, je pense que ça a créé aussi le débat. Mais enfin, jusqu'où faut-il aller ? Est-ce que vraiment la désobéissance civile est nécessaire ? Plusieurs juges, ou même jusqu'au tribunal fédéral, disent que oui, il y a une kyrielle de moyens. Pour faire passer le message, il faut voter, il faut élire, il faut faire des pétitions. Mais tout ça, ça a été fait. Et élire et voter, quand on a un Parlement qui se permet maintenant de dire l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, on ne va pas le respecter. Et là, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis complètement indignée par le Parlement suisse qui refuse en fait une sanction rendue par la Cour européenne des droits de l'homme à l'égard des aînés pour le climat, qui fait une forme de désobéissance civile. C'est, permettez que je m'indigne et puis que je fasse un peu d'ironie là autour. Ben voilà, ce sont des personnes qu'on a élues et voilà ce qu'ils sont capables de dire alors que les climatologues disent que la Suisse ne respecte pas ses engagements et ne fait pas suffisamment en matière de protection du climat. Donc, pour moi, ça a donné beaucoup de sens à ce que je faisais dans mon métier, à ce que j'étais en fait. Et puis ça continue en fait, ça m'a permis vraiment de me mettre en action. Et c'est important. Ça me fait beaucoup de bien en fait, parce que sinon le sentiment d'impuissance me met mal, me rend triste. Et puis c'est pas dans ma nature. J'ai de l'espoir dans le sens où autour de moi, beaucoup de personnes sont sensibles à la problématique climatique, ont envie d'agir, sont des personnes bienveillantes. Et puis j'ai le désespoir quand je vois ce qui se fait au niveau politique, notamment politique suisse, ce que je vois quant à l'inaction ou l'action, mais aussi des entreprises. Donc en fait, mon cœur balance entre les deux. Mais en fait, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse abattre. Donc, je vais résister. Et je résiste. Et ça me fait du bien de résister. Et ça me met même en colère, j'entends. Et c'est parce que j'ai de la colère, que j'ai de la rage, que je me mets en action. Donc, voilà, je me crée mon espoir, en fait, je dirais. Alors c'était au printemps 2022, les activistes du climat sont condamnés, la Suisse n'en fait toujours pas plus. Puis j'écoutais un podcast sur des femmes, une action de femmes qui, en Angleterre dans les années 80, se sont levées, se sont opposées à l'installation de missiles Pershing à tête nucléaire dans une zone militaire. Elles se sont réunies, ça a été joyeux, ça a été festif. Et elles se sont installées et le camp est resté jusque dans les années 2000. Et puis je me suis dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est vrai que je suis une féministe. Je me suis dit, on va réunir des femmes et puis on va marcher. Il faut qu'on bouge. Parce que marcher, en fait, pour moi, c'est vraiment aussi se mettre en mouvement. C'est déjà faire un pas. Mais il y a aussi la marche, c'est de monter dans quelque chose. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer la Marche Bleue. La Marche Bleue, en fait, c'est... On est trois femmes, Julia Steinberger, Valérie Dacremont et moi-même, et Bastienne Jurchel s'est aussi mise avec nous après, qui avons réuni des personnes pour marcher trois semaines depuis le 1er avril 2023. On est parti de Genève. Tous les jours, nous avons marché pour nous rendre à Berne pour porter le message, notre demande, que la Suisse respecte l'accord de Paris. Et donc, on était en moyenne, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, on était en moyenne 200 personnes par jour. Et puis, on s'est retrouvés 4000 sur la place fédérale après trois semaines. Et c'était un moment où, en fait, on a marché en bienveillance, tout le monde. Alors, il y avait des femmes comme des hommes, évidemment. Et on se faisait du bien. On n'avait pas besoin de se raconter le problème climatique parce que... On le sait tous. Et donc, ça, c'était aussi quelque chose de se dire, on n'est pas seul. Et puis, en fait, on a traversé des endroits magnifiques. On a rigolé, on a dormi dans des abris atomiques. C'était vraiment une magnifique expérience. Le droit est là, comme je le conçois, pour permettre de vivre ensemble en société. Donc, il est adaptable, il doit s'adapter à l'évolution de la société. À un moment donné, typiquement, les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles ont eu le droit. Il y avait des objecteurs de conscience. Si on ne faisait pas l'armée, si on refusait, on allait en prison. Le droit a évolué, enfin, la loi a évolué. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... Le droit est là pour s'adapter aux besoins d'une société et aux besoins de la société, de tous, de vivre ensemble. C'est comme ça que je le conçois. Et c'est comme ça que je le pratique. Et c'est comme ça que je trouve qu'il doit être pratiqué aussi dans cette cause climatique, où non seulement la liberté d'expression et de réunion doit être respectée pour des cas de désobéissance civile, notamment donc toutes ces personnes qui font de l'activisme climatique de manière pacifique et proportionnée, mais aussi dans tout autre type de situation. Le droit n'est, à mon sens, pas suffisant. Je pense que le droit a un levier d'action lorsqu'il condamne à des sanctions financières. C'est là où ça fait mal aux entreprises et c'est ça qui les incite à changer. Parce que les entreprises sont un levier important pour faire changer cette société, pour aller vers une transition nécessaire. En fait, ce qui m'énerve aussi, c'est cette culpabilisation personnelle. On cherche à faire en sorte que de valoriser les actions individuelles, trier les déchets, ou ne plus manger de viande, ou désormais je bois de l'eau du robinet, et puis voilà. Donc ça, c'est en fait cette culpabilisation personnelle est aussi largement téléguidée par les milieux économiques. Donc il faut des changements systémiques. C'est évidemment des changements de production et de consommation. C'est-à-dire qu'il faut changer, il faut éviter de produire, il faut éviter de consommer certaines choses. Et c'est tout cela réuni qui aura son effet, mais tout cela réuni par qui ? Pas par des individus, chacun de leur côté, mais par des volontés politiques et par des incitations fortes, voire des injonctions données aux milieux économiques et banquiers aussi, et financiers évidemment. En fait, je pense que pour se mettre en route ou pour agir, chacun a ses moyens. On a tous nos forces, nos faiblesses, nos connaissances, et il faut les mettre à profit pour s'investir dans cette transition nécessaire et pour vraiment créer des actions, qu'elles soient collectives, parce que ces actions individuelles, trier ses déchets ou même prendre l'avion, c'est à titre individuel, c'est juste insignifiant. Donc c'est vraiment, en fait, c'est ce que j'ai aussi vécu avec cet engagement, et c'est ce sentiment de qu'on n'est pas seul, et puis qu'ensemble, on peut faire bouger les choses. Ensemble, on se sent plus fort, on peut rigoler, on peut pleurer, on peut désespérer, mais on peut aller à l'action et puis avoir des résultats. Donc c'est vraiment ça. Et j'ai ce souvenir à la sortie du procès de la partie tennis du Crédit Suisse, lors de l'acquittement, donc en première instance, il y avait un mur de médias devant. Et j'ai dit, ça n'a pas été repris par les médias, mais j'ai dit, mais tout le monde, dans son domaine d'action, avec ses compétences, peut faire quelque chose. Vous, les médias, vous pouvez informer. Vous devez maintenant informer. Et je dis aussi, et je rêve de banquiers qui interpellent leur hiérarchie au sujet des investissements fossiles.
Merci d'avoir écouté l'épisode pilote de cette série sur l'éco-anxiété. Pour certaines personnes, passer à l'action peut être une clé pour trouver du sens et de l'espoir au quotidien. Mais parfois, il arrive que notre état de santé mentale ne permette pas d'agir et nous fige. Si vous avez besoin d'aide ou que vous vous inquiétez pour quelqu'un autour de vous, ne restez pas seul et parlez-en à une personne de confiance. Il est possible d'appeler gratuitement le 147 ou le 143 ou d'écrire anonymement sur les sites de ciao.ch ou ontécoute.ch.